Radio Prague, les informations.
La gouverneure générale du Canada en visite bientôt en République tchèque. Cérémonie à l'occasion du 65e anniversaire du décès d'Edvard Beneš. Le gouvernement a dit stop à la circulation des poids lourds le vendredi. Alors que le nombre de migrants roms de République tchèque vers le Canada n'a cessé d'augmenter, Michaël Jean, la gouverneure générale du Canada, se rendra très bientôt en République tchèque. Ces migrations font craindre le rétablissement de l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques vers le Canada. La gouverneure se rendra ainsi en novembre à Brno pour rendre visite à la communauté rome. Les autorités canadiennes refusent d'établir un lien entre sa visite et le départ de Rome vers le Canada. Le programme du deuxième président tchécoslovaque, Edvard Beneš, est un programme de sauvegarde de l'indépendance et de la liberté de la Tchécoslovaquie, a déclaré le président Václav Klaus à une cérémonie qui a eu lieu ce mercredi à Sezimovo Ústí à l'occasion du 60e anniversaire de la disparition de Beneš. Pour Václav Klaus, même si Edvard Beneš a succombé aux pressions de deux totalités du XXe siècle, il devrait rester dans la mémoire en tant qu'homme politique grâce auquel la Tchécoslovaquie était pendant deux décennies un pays souverain. Le gouvernement a durci la réglementation de la circulation des poids lourds. L'interdiction de rouler pendant une partie du week-end s'étend désormais à tous les 12 mois de l'année, alors que jusqu'à présent elle était limitée au mois de juillet et août. Dorénavant donc, la circulation est interdite routière le vendredi de 15 à 18 heures et le dimanche jusqu'à 22 heures. L'unité spéciale de Prostějov, qui fait partie des forces d'élite de l'armée tchèque, opère à nouveau depuis le début du mois de septembre en Afghanistan, comme l'a indiqué auparavant la ministre de la Défense Vlasta Parkanova. Les soldats tchèques doivent compter sur leur déploiement dans des régions à risque, leur mission pour être indépendante des opérations de l'OTAN. Le 16 septembre, soit le jour précédent son 94e anniversaire, une cérémonie du souvenir à la mémoire de Tomáš Baťa Junior se déroulera dans la ville de la chaussure Baťa, Zlín. Le président Václav Klaus a exprimé à Sonia Baťa, veuve de Tomáš Baťa, ses profonds regrets du décès d'un homme qui, malgré la défaveur du sort, a su s'imposer à une échelle internationale et est devenu le symbole de fierté et de réussite de l'entreprise. L'héritier de la célèbre marque est décédé lundi à Toronto. C'est ce vendredi à 16h, qu'aura lieu son enterrement dans la métropole canadienne. Un ciel couvert, des précipitations locales et des températures variant entre 19 et 23 degrés sont prévues pour jeudi, jour de fête de toutes les Jindřiška dans le calendrier tchèque. C'était les informations de Radio Prague présentées par Irka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Prague et vous écoutez les faits et événements. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons en premier d'un sujet qui inquiète des dizaines de petites communes dans tout le pays, l'annonce par la Poste tchèque de la suppression de bureaux de poste les moins utilisés. De l'histoire ensuite, il y a 60 ans disparaissait le président tchécoslovaque Edvard Beneš, un des hommes qui a le plus compté dans l'histoire de la Tchécoslovaquie de la première moitié du XXe siècle. Les Pragois vont devoir ajouter une carte à puce supplémentaire dans leur portefeuille, l'Open Card, c'est son nom, pour les transports en commun, mais pas seulement, on en parle en fin d'émission, ce sera juste avant de passer à la culture, avec un spectacle très français sur un bateau qui flotte en ce moment sur la rivière Vltava à Prague. Voilà pour le sommaire, je vous souhaite une très agréable réception à toutes et à tous. « 178, c'est le nombre de bureaux de poste qui sont censés disparaître à partir de l'année prochaine. La décision de la Poste tchèque est très mal accueillie par les communes concernées. Plus d'informations avec Alena Gebertova.
Des motivations économiques sont à l'origine de la décision de suspendre des bureaux de poste prétendument peu lucratifs, disséminés à travers le pays et qui faisaient depuis belle lurette partie du paysage. Les habitants et les maires des communes qui seront concernés se révoltent et signent des pétitions craignant perdre leur confort postal. On écoute une habitante de la commune de Netín, située à une centaine de kilomètres de Prague.
Quand on n'a pas de voiture, la situation devient pénible. On devra prendre le bus pour aller à la poste dans une commune éloignée. Et comme les intervalles sont grands, on aura à passer des heures cloués sur place en attendant une communication convenable.
La poste tchèque mise dorénavant sur une distribution motorisée du courrier, n'excluant pas une nouvelle vague liquidative de bureaux de poste à l'avenir. Son porte-parole, Ivo Mravenac, explique.
À long terme, on peut s'attendre à ce que d'autres bureaux de poste soient au fur et à mesure suspendus dès que le courrier électronique prendra le dessus sur le courrier postal. Mais ce n'est pas une chose prévue pour les mois à venir.
Quelques semaines avant les élections municipales, le projet de suspension de moins de 200 bureaux de poste prend une dimension politique. Le ministère de l'Intérieur en est conscient et invite la poste tchèque, dont il a la tutelle, par la bouche du vice-ministre Zdeněk Zajíček, à réexaminer la réalisation de sa démarche.
Il s'agit d'un processus qui doit être réalisé avec beaucoup de finesse et de réflexion. Il doit être soigneusement discuté avec les maires des communes concernées. Le moment doit être choisi de façon à ne pas provoquer de perturbations ou d'autres graves problèmes.
Ce jeudi, des négociations seront menées à ce sujet entre les responsables de la poste tchèque et les ministres de l'aménagement territorial et de l'intérieur, respectivement Jiří Čunek et Ivan Langer. Arriveront-ils à un compromis pouvant apaiser la colère des habitants des petites communes? La tâche s'annonce difficile.
Un peu d'histoire maintenant, je vous le disais en titre, cela fait 60 ans que le 3 septembre 1948 disparaissait Édouard Benesch des suites d'une longue maladie à l'âge de 64 ans. Benesch, dont nous parle aujourd'hui notre correspondant à Paris, Jiří Slavíček.
Francophone et surtout francophile convaincu, sa langue de travail était très souvent justement le français. Le deuxième président de la nouvelle Tchécoslovaquie indépendante et démocratique, qu'il a grandement contribué aux côtés du président Masaryk, d'abord à fonder puis à représenter en tant que son indéboulonnable ministre des Affaires étrangères, puis comme président, a fait connaissance pendant son deuxième exil à Londres avec le général de Gaulle, lui aussi en exil en Grande-Bretagne, pour préparer l'après-guerre en Europe. En réalité, le président Benesch, qui reste dans la mémoire européenne comme l'homme politique le plus tragiquement trahi par les accords de Munich, mais qui a cependant refusé d'entrer en guerre pour se défendre, est dans la mémoire de la Tchécoslovaquie de l'après-guerre comme l'homme politique qui a cédé aux pressions du Parti communiste tchécoslovaque sous influence de Moscou et surtout de son chef, le camarade Gottwald, permettant ainsi de donner à la prise du pouvoir par ces mêmes communistes une apparence légale. On dit souvent même que la démocratie en Europe centrale est morte avec lui et pour très longtemps. Ce personnage à facettes multiples attend toujours une véritable appréciation critique de la part des historiens indépendants, sans laquelle, nous pouvons l'affirmer, on se prive d'une des clés pour comprendre l'évolution actuelle de la République tchèque et de sa place en Europe. Alors qu'à Paris, on évoque avec insistance, et jusqu'à présent sans démenti par des intéressés, la préparation en France d'un film sur un autre Édouard et de son rôle dans la préparation des accords de Munich, à savoir Édouard Daladier, selon l'adaptation du dernier roman de Georges-Marc Benamou, justement sur Munich, qui doit être porté à l'écran par Miloš Forman, il semble qu'en République tchèque de nos jours, 60 ans après la mort d'Édouard Benesch, il est toujours, comme on dit en France, urgent d'attendre pour évaluer son influence et sa véritable place dans l'histoire de son pays. De Paris pour Radio Prague, Jiří Slavíček.
Merci à Jiří d'avoir évoqué le destin d'Edouard Beneš depuis la capitale française. Notez que juste après cette émission, dans les chapitres de l'histoire, nous reviendrons également sur le destin du président Beneš pour marquer le 60e anniversaire de sa mort. Les Parisiens ont leur passe Navigo, les Londoniens ont leur Oyster Card, désormais les Pragois ont leur Open Card. Un nom plus anglais que tchèque, Open Card, pour désigner la nouvelle carte à puce multi-emploi pour les résidents de la capitale tchèque. Alors l'Open Card, ça va servir à quoi ? D'abord à voyager dans les transports en commun, puisque cette carte sera indispensable pour acheter son titre de transport annuel, un titre qu'achète bon nombre de Pragois en décembre pour l'année suivante. Pour l'instant, l'Open Card va d'abord servir à payer dans les parcs maîtres du centre-ville. Elle permet aussi d'emprunter des livres dans toutes les bibliothèques municipales, 38 en tout, et de se connecter sur certaines pages sécurisées du site internet de la ville. L'Open Card est jusqu'ici gratuite, mais cela pourrait bientôt changer. Ceux qui ne l'ont pas encore pourront encore quelques mois utiliser leur ancienne carte de transport, au moins jusqu'au second semestre de l'année 2009. L'Open Card doit être rechargé dans un des 9 points de vente ouverts en ville, un nombre insuffisant pour beaucoup de Pragois qui se plaignent des trop longues files d'attente. On écoute Rudolf Blažek, il est adjoint au maire de Prague.
Tous les mois ou tous les trimestres à l'avenir, le nombre d'endroits où pourront être rechargées ces cartes va augmenter. Je suis avant tout convaincu que cela devra pouvoir se faire sur Internet.
Alors, il n'est pas encore possible de commander ni de recharger son Open Card en ligne. Donc, une seule solution pour l'instant, remplir le formulaire de demande accompagné d'une photo d'identité et le remettre dans un des 9 guichets Open Card. Les responsables du projet le promettent. Bientôt, cette carte ouverte donnera droit à des réductions. On écoute Martin Opaterny, il est porte-parole de l'Open Card.
À l'avenir, il sera possible de bénéficier de réductions ou de bonus au théâtre, cinéma, musée ou lors d'événements sportifs. Nous voulons aussi élargir le champ d'application pour permettre aux visiteurs et aux touristes d'utiliser certains des services proposés.
Et pour plus d'informations sur cette carte, vous pouvez consulter le site www.opencard.cz ou bien sûr notre site, vous le connaissez l'adresse, c'est le www.radio.cz. On termine cette émission avec un peu de culture. En marge du festival de cirque Letni Letna, où ils ont donné un spectacle intitulé Obsession, les deux membres de la troupe franco-tchèque Décalage ont également investi l'embarcation des frères Forman. C'est sur ce bateau qui mouille au quai du quartier Holešovice que Céline Vallée et Salvi Salvatore vont jouer leur production du 3 au 5 septembre. Céline Vallée en a parlé à l'occasion du festival au micro d'Anna Kubishta, on l'écoute.
On a un autre spectacle qui s'appelle Tabalada, qui est un spectacle qui se joue dehors, qu'on va aller jouer en France au mois d'octobre. C'est inspiré d'une légende japonaise, en fait, qui, en fait, raconte comment dans les villages très très pauvres des montagnes, quand les gens devenaient trop vieux, étaient trop vieux pour travailler, et donc fallait quand même les nourrir, donc ça prenait... Voilà, la communauté était pauvre et donc c'était un peu inutile de nourrir ces vieilles personnes. Donc en fait, le principe, c'était que les fils ou les enfants aînés devaient emporter le parent, la mère ou le père, en haut d'une montagne qui s'appelle la montagne Narayama et les laisser mourir là. Voilà, donc c'est ça. Ouais, c'est dur. Mais c'est vrai qu'on... Même Obsession, qu'on va jouer ce soir et demain à Letni Letna, c'est assez dur aussi. C'est un thème, c'est pas très léger, quoi. Mais bon, je pense que c'est la vie, quoi. Hein. Mais aussi comment faire de choses pas légères, le transposer et en faire de la poésie, en faire du visuel, du.
Est-ce qu'il y a un autre spectacle là ou des idées déjà en cours d'élaboration, hormis les spectacles déjà préparés, déjà joués ?
Oui, les idées, il y en a plein, ça manque pas. On a au moins 6 spectacles dans nos tiroirs, si c'est pas plus. Mais on fait aussi, par exemple, là, on vient de faire un stage pendant une semaine, de donner un stage pendant une semaine en Moravie, avec des jeunes artistes de Hongrie, Pologne et Tchéquie. À la suite de quoi, il y a eu un spectacle. Donc voilà, on crée toujours un peu, même durant l'année. On a là pour l'instant, on a nos deux dans le répertoire en ce moment. En tout cas, on a Obsession et Balada. Sinon, un nouveau spectacle décalage, évidemment, il y en aura. Et on a plein d'idées, ouais. Mais bon, maintenant, il faut trouver aussi les financements. Il faut trouver le temps, ça se trouve aussi. Mais bon, les financements, en général, c'est ce qui est un peu... Le plus difficile, et puis la production. Enfin, on a la chance d'avoir une production. Voilà, donc on a la chance que ces gens-là travaillent avec nous et nous aident à monter les spectacles plutôt du côté donc financier et administratif, et après faire tourner les spectacles. Et voilà, c'est un tout, hein. Et c'est vrai que les idées artistiques, etc., ou même l'envie est là toujours, évidemment. Les idées sont là, l'inspiration est là, elle manque pas, mais bon. Après, il faut concrètement aussi comment on peut engager tout ça. C'est assez lourd, quoi.
C'est sur cette page culturelle que se terminent les faits et événements. Comme promis maintenant, la rubrique historique consacrée cette semaine à Édouard Beneš.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Nous célébrons le 60e anniversaire de la mort d'Edouard Beneš, deuxième président de la République tchécoslovaque, mais aussi artisan avec Tomáš Garrigue Masaryk de l'indépendance tchécoslovaque en 1918. Mais cette grande figure de l'histoire nationale était avant tout un homme de contraste. C'est ce que nous verrons aujourd'hui.
Au bord de la rupture en 1925, les relations entre la Tchécoslovaquie et le Vatican sont sauvées de justesse par Beneš, qui obtient la signature d'un modus vivendi en 1928. Beneš agit d'abord en homme politique. Il est d'ailleurs agnostique. En effet, il souhaite succéder à Masaryk à la tête de la présidence de l'État et a besoin, pour cela, des voix catholiques importantes en Moravie. Pari tenu, en 1935, il est élu.
Mais s'il n'est pas croyant, Beneš est un vrai humaniste, très engagé dans les problématiques de son temps. Il occupe d'ailleurs une position élevée dans la franc-maçonnerie tchèque, très liée au Grand Orient de France. Dans les loges, il côtoie des hommes politiques et des hauts dignitaires. Beneš compte parmi les rares francs-maçons tchèques. Autorisé en Hongrie depuis 1867, la franc-maçonnerie était interdite en terre tchèque avant 1918, tout comme en Autriche depuis la fin du XVIIIe siècle, ce qui explique son faible développement par la suite. Contrairement à une légende tenace, Masaryk, quant à lui, n'a jamais été franc-maçon, même s'il était considéré par les loges maçonniques à l'étranger comme un frère sans tablier.
Beneš était un homme spirituel, capable, au moment de crise, de vibrer à l'unisson des mythes fondateurs de son pays. Lors d'un discours radio diffusé au moment de la crise de Munich en septembre 1938, il déclare à ses concitoyens « Ne craignez pas pour la nation ou pour l'État dont les racines sont solides et profondes. Pensez à la prophétie de la princesse Libouché qui a dit « Ma chère patrie ne mourra jamais » et en effet, elle surmontera glorieusement toutes les horreurs de l'époque. »
L'envolée mystique fait tout le charme et la dimension du personnage, mais elle n'est pas sans rappeler son mentor, Tomáš Garrigue Masaryk, qui n'hésitait pas à faire référence au réformateur Jan Hus dans certains discours. Et en même temps, cet esprit mystique tranche avec le caractère de l'homme politique, pragmatique, agnostique, et qui ne doit sans doute qu'au désespoir de faire appel à la prophétesse Libouché contre les chars allemands.
À la veille des accords de Munich, Beneš prononce un autre discours poignant et où l'esprit du célèbre « La vérité vaincra » de Jan Hus, qui est aussi la devise nationale, transparaît clairement. Nous l'écoutons.
Mesdames, et messieurs, nous célébrons aujourd'hui, comme chaque année, la cérémonie de la paix de la Croix-Rouge. Nous proclamons pour 3 jours sur toute l'étendue du territoire de la République la trêve de Dieu, c'est-à-dire l'arrêt de toute l'élite politique, sociale et nationale, et nous souvenons que nous sommes tous unis par les liens de l'amour et de la solidarité humaine. Et cette action a pour devise la devise même des présidents de la République tchécoslovaque, qui est inscrite dans les armes de l'État. La vérité l'emporte. La paix est la vérité est la paix. Comme ces deux notions sont étroitement liées l'une à l'autre. Il n'est pas de paix sans vérité, il n'est pas de vérité sans paix. Partout où naît la vie, la nécessité s'impose de la sauvegarder et de la développer. Oui, certes, la vie est remplie de conflits et de luttes que provoquent les intérêts et les besoins des individus, des partis, des classes, des nations et des États. Mais nous professons et nous voulons appliquer dans la pratique le principe que ces conflits, dont les nations qui ont une culture véritablement humaine, ne doivent pas se régler par la violence et par les armes, mais bien par la discussion, les compromis et l'entente.
Déjà remarqué, Benesh est un homme de contraste. Le contraste entre l'homme de raison et l'homme de spiritualité se retrouve également dans celui opposant l'homme en guerre, plus que l'homme de guerre et l'homme de paix.
Réfugié à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe à continuer la lutte contre le Troisième Reich. De même, après la guerre, c'est à une posture de combat qu'il se livre en signant de son nom le décret qui aboutit à l'expulsion, parfois violente, de tous les Allemands des Sudètes. Si cette décision fait encore aujourd'hui l'objet de polémiques, on peut se demander si ses motivations ne relevaient pas d'un certain pragmatisme politique.
Prague est la seule ville à ne pas avoir subi l'occupation soviétique, mais le Parti communiste y fait des scores électoraux importants après-guerre. Une vague de russophilie est dans l'air, les Tchèques n'ont pas digéré le lâchage franco-anglais de 1938 et Staline est le héros du jour. Dans ce contexte, le Parti communiste met au premier plan de sa propagande le danger d'un retour au pouvoir des nazis. De là découle la nécessité de la protection russe. Benesh sent très bien la nocivité de l'argument. Peut-être a-t-il voulu aussi couper l'herbe sous le pied des communistes en expulsant les Allemands de Bohême.
En attendant, il cultive l'illusion d'une possibilité pour la Tchécoslovaquie de constituer un pont entre l'Est et l'Ouest et de ne pas se laisser entraîner dans la logique des blocs. Une illusion qui n'était pas loin de devenir réalité, car la Tchécoslovaquie avait échappé aux zones d'influence définies entre Américains, Russes et Anglais à la conférence de Yalta. Benesh n'y survivra pas.
Les chapitres de l'histoire préparés cette semaine par David Allon étaient présentés par Alena Gebertova et Václav Richter. Et c'est déjà la fin de notre émission en français. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz. Au revoir, Nasredano.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on